Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Novak Djokovic dit qu'il n'y a que pour Gaël Monfils qu'il serait prêt à payer sa place pour regarder un match de tennis. Demi-finaliste à Roland-Garros en 2008, tout le monde voyait en lui le successeur de Yannick Noah, dernier Français victorieux, porte d'Auteuil chez les hommes. Gaël Monfils semblait tout avoir pour briller au plus haut niveau, ça n'a pas été le cas. On vous raconte pourquoi avec Éric Brunat, reporter au service des sports du Parisien.
Gaël Monfils, physiquement, c'est un grand gaillard de 1m93, 80 kg, un beau corps d'athlète bien sculpté et surtout bien tatoué, puisque la première phrase qui s'est fait tatouer, c'est la phrase de Martin Luther King, « I have a dream ». Il a poursuivi dans la même veine en se faisant tatouer deux autres phrases sur le thème des rêves et de la poursuite des rêves, de la destinée. Il s'est tatoué deux grandes ailes dans le dos qui lui portent bonheur. Il s'est tatoué aussi deux petites ailes sur les poignets et il s'est également tatoué des cartes de poker. Un As et un 5 qui forment le nombre 15. Et le 15, pour lui, c'est un nombre qui a une signification particulière, qui signifie l'infini, le porte-bonheur. Enfin, c'est un peu nébuleux, mais c'est ce nombre 15 qui rythme sa vie.
Et vous disiez donc son premier tatouage, c'est I have a dream. Est-ce qu'on sait quel est son rêve?
Alors, en ce moment, ça tombe très bien, puisque son rêve, c'est sûr, il le traîne depuis longtemps, c'est de gagner Roland-Garros. Ou au moins de gagner un grand chelem, puisqu'il y en a deux qui sont potentiellement jouables pour lui, c'est Roland-Garros ou l'US Open.
Décrivez-nous Gaël Monfils sur le court quand il joue son meilleur tennis.
C'est un spectacle. Gaël Monfils, c'est quelqu'un qui court dans tous les sens, qui est capable de faire des points incroyables, qui peut donner parfois l'impression de s'en moquer totalement, de s'arrêter de jouer et puis tout d'un coup de récupérer la balle. C'est un espèce de funambule, voilà. On va dire un funambule des courts.
En 2008, Gaël Monfils atteint les demi-finales de Roland-Garros. Racontez-nous comment.
Alors déjà, à l'époque, il faut savoir que depuis 7 ans, il n'y a pas eu de Français en demi-finale. C'était Sébastien Grosjean en 2001, le dernier. Et que toutes les années, de façon sempiternelle, depuis 1983 et la victoire de Yannick Noah, on attend le Français qui va gagner Roland-Garros. Et donc cette année-là, Gaël Monfils, on ne l'attend pas spécialement. Il franchit tranquillement les deux premiers tours. Il continue un huitième de finale un peu plus difficile en 5-7. Il rencontre David Ferrer en quart de finale. David Ferrer qui est quand même une pointure sur terre battue, donc il bat David Ferrer. Et il se retrouve en demi-finale contre Roger Federer, qui à l'époque est numéro 1 mondial.
Oh là là, oh, oh, oh,
le point du match pour l'instant. Ah ouais.
Donc là, évidemment, la marche est beaucoup plus haute. Pourtant, il se dégonfle pas puisqu'il arrive à tenir tête à Federer. Les deux joueurs se retrouvent même à un set partout. Donc, il y a une ouverture dans ce match-là. Malheureusement, Federer était beaucoup trop fort et donc Monfils s'incline en 4-7.
À cette époque-là, donc en 2008, il n'a que 21 ans. Qu'est-ce que tout le monde se dit?
Tout le monde se dit qu'à cet âge-là, forcément, les lendemains vont être très très prometteurs. Et là, évidemment, on s'imagine que enfin, il va y avoir un successeur à Noah.
À peine 11 ans et déjà suivi par la fédération. À la fin de l'année, Gaël devrait être classé 15-1. Quatre grands tournois cette année, quatre finales, avec toujours l'esprit sportif.
Et ça arrive d'être dans les 10 premiers mondiaux.
Et tu te rends compte du chemin que tu as encore à parcourir avant d'être number one?
Oui, j'en ai plein encore. Toujours être à 100% et jamais donner de points, bête.
Qu'est-ce qui te manque pour arriver à ce niveau-là?
La rigueur. Quand je pars, de pas tellement jouer avec les jeux vidéo et tout ça.
Pour essayer de mieux comprendre Gaël Monfils. On va repartir du début. Sa famille est originaire des Antilles. Sa mère est de Martinique. Son père est né en Guadeloupe. Mais lui, il est né et il a grandi à Paris. Dans quel milieu ?
Il habitait rue Compans dans le 19e. Son père, après une carrière de footballeur qui a été interrompue pour cause de blessure, était à l'époque agent France Télécom. Sa mère était infirmière. Son père, après avoir arrêté le foot, s'est mis au tennis par loisir. Il a atteint un niveau, il jouait troisième série, donc il allait faire des tournois à droite à gauche. Gaël le suivait parce que c'est lui qui le gardait. Donc il a pris la passion et puis ensuite ils ont commencé, il avait 4 ans, sur les cours du parc de la Courneuve. À l'âge de 13 ans, on lui propose d'intégrer le Pôle France à Reims. Il refuse parce qu'il avait du mal à quitter le nid. Il préférait rester près de ses parents. Il faut savoir qu'à l'époque, ses parents avaient divorcé. Donc ils habitaient tous les deux à Bobigny. Ils avaient déménagé. Et Gaël avait du mal à quitter le nid. Donc il a attendu un peu plus tard pour partir suivre son cursus traditionnel de joueur, faire ses années d'INSEP et ensuite la vie sur le circuit.
Et donc on l'a vu, hein, en 2008 à Roland-Garros, Gaël Monfils atteint les demi-finales. Est-ce qu'il confirme ensuite les saisons suivantes ?
Les saisons suivantes, je dirais qu'il confirme beaucoup à Paris. Parce qu'à Paris, il est bien. Il y a quelque chose, il y a l'affect, il y a quelque chose qui se passe, il y a une magie parisienne. Son père, toutes les années, là, Roland-Garros, l'accompagne, lui fait les petits plats. Il y a toujours une magie et toutes les années, il a toujours trouvé quelque chose qui fasse une nouvelle histoire à Roland-Garros.
Parlons un peu de l'équipe de France. Ça n'a jamais été simple pour lui en Coupe Davis.
C'est vrai que c'est une histoire assez contrastée, puisqu'il a commencé sa carrière en Coupe Davis en 2009, dans un barrage que l'équipe de France jouait aux Pays-Bas. Donc il est tout jeune, et là tout le monde lui avait dit « Attention Gaël, un premier match de Coupe Davis, c'est spécial dans une vie, c'est pas du tout un match comme un autre. Attention !» Et Gaël Monfils est arrivé, un peu l'image qu'on a de lui, il a dit « Non mais c'est pas grave, il l'a pas pris en dilettante, mais il l'a pris comme un match comme un autre. » Et évidemment, ce match-là, il l'a perdu. Donc il a commencé déjà de façon un peu contrastée son rapport à l'équipe de France.
En 2016, Yannick Noah est capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Le premier tour se déroule en Guadeloupe. Déjà, est-ce que c'était pour Gaël Monfils ?
Oui, c'était tout à fait un clin d'œil à Gaël Monfils, parce que quand Noah a pris l'équipe de France, donc début 2016, son pari, c'était de gagner la Coupe Davis avec les 4 joueurs qu'on avait baptisés les mousquetaires, les nouveaux mousquetaires, c'est-à-dire Monfils, Tsonga, Gasquet et Simon. Et il s'était mis en tête de gagner avec ces 4-là. Et peut-être que celui qui est le plus difficile à percevoir, à comprendre, c'est lui. Donc Noah avait déjà fait un geste en se disant « Je vais l'amener un peu sur les racines de ses ancêtres, ça va être génial. »
Et comment réagit Gaël Monfils ?
Gaël Monfils est le seul joueur qui, publiquement, sur les 4 sélectionnés, va dire que c'est pas une riche idée, parce que ça oblige à faire un voyage en Guadeloupe pendant une période où les joueurs sont pas sur ce continent-là, que ça va être perturbant et que plus ou moins tout le monde pense comme lui, mais que c'est le seul à le dire. Donc déjà, il casse un peu le jouet avant de commencer.
La Monf est dans la place. Attendu après ses déclarations sur ses doutes légitimes de joueurs professionnels à se déplacer en Guadeloupe, celui qui a l'île de Guada, mais aussi de la Martinique tatouée sur le bras, se confie à cœur ouvert.
Si vous êtes sélectionné pour le premier tour de Coupe Davis en Guadeloupe, est-ce que vous y serez heureux d'y participer ?
Forcément, une sélection en équipe de France est incroyable, donc forcément. Ouais. La Guadeloupe, c'est mes racines, c'est là où la moitié de ma famille habite, c'est là où mon père habite. Donc forcément, la Guadeloupe, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est une polémique un peu pour rien.
Et du coup, comment se passe ce premier tour pour l'équipe de France de Coupe Davis ?
Bon, ça se passe très bien sportivement parce que l'équipe d'en face, le Canada, n'est pas d'un très haut niveau. Donc la France gagne 5-0. Mais quand mon fils joue et gagne son match en Guadeloupe, il embrasse Noah en lui disant que c'est un des plus beaux jours de sa vie, qu'il est le plus heureux au monde et que donc ils vont arriver à faire de grandes choses ensemble.
Et malgré ça, épisode surprenant au stade des demi-finales face à la Croatie, toujours en 2016. Donc, que se passe-t-il pour Gaël Monfils ?
Il se passe que Gaël Monfils vient de faire les demi-finales de l'US Open. Donc, c'est le joueur français en forme. Il arrive donc à Zadar, en Croatie, et il souffre d'une petite inflammation, enfin, ou d'une grosse inflammation. Il souffre d'une inflammation au tendon rotulien gauche. Pendant que les joueurs sont à Zadar pour disputer cette demi-finale, Gaël Monfils déclare forfait au prétexte qu'il est blessé. Donc Yannick Noah invente toute une histoire autour de ce forfait pour donner le change en expliquant aux gens qu'il est tombé dans l'escalier. Enfin, il y a eu toute une nébuleuse, toute une affaire assez rocambolesque autour de ce forfait. Mais toujours est-il que donc il n'a pas participé à cette demi-finale. Et Noah a pris ça comme un renoncement de trop.
Voilà. Il a très mal pris. Gaël Monfils, il était vraiment blessé ou pas ?
Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'avec Gaël Monfils, il faut s'attendre à tout. Et Gaël Monfils, 2 mois plus tard, fatigué de toutes les rumeurs, les hypothèses sur son forfait et sur ses forfaits, puisqu'il y avait eu pas mal d'histoires dans la saison, est venu faire une conférence de presse totalement surréaliste au tournoi de Bercy avec le docteur Montalvan, le médecin de la Fédération française. Il s'est installé et c'était un peu le sketch de Coluche. Qu'avez-vous fait dans la nuit du 27 novembre au 23 avril? C'était exactement ça. Il s'est posé sur la table avec le relevé médical de toutes les blessures de l'année pour donc expliquer toutes les blessures. Et il s'avère que celle-là, il n'est pas totalement arrivé à l'expliquer. Finalement, seul Gaël Monfils connaissait la gravité de la blessure. Il aurait peut-être pu jouer, par exemple, sous anti-inflammatoire, avec un traitement, mais seul lui pouvait savoir ce dont il souffrait vraiment.
Et en tout cas, Gaël Monfils n'a jamais gagné la Coupe Davis. Il n'était pas dans l'équipe victorieuse en 2017 face à la Belgique. Est-ce que c'est la conséquence directe de cet épisode ?
Oui, puisque ensuite, il n'a jamais plus été appelé. Alors que ce soit Noah qui publiquement donnait le change en disant « je l'aurais bien appelé », mais que ce soit Gaël Monfils qui ne soit pas dispo parce qu'il était blessé ou... Il y a toujours eu une nébuleuse, mais en fait, il ne l'a jamais rappelé. Et Gaël Monfils n'a jamais gagné la Coupe Davis.
Il a eu longtemps la réputation de ne pas être assez professionnel. Pourquoi est-ce qu'on lui reproche ça ?
Et c'est quelque chose qui est parti de tout jeune, où on a associé un peu l'image Gaël Monfils, McDo, roi des burgers, roi du fast-food.
C'est-à-dire ?
Parce qu'au début, il n'avait pas forcément une hygiène alimentaire extraordinaire, mais qui n'était pas... pas pire que d'autres, mais c'est vrai qu'on s'est focalisé sur cette image-là. Et ensuite, ça lui est resté.
Plutôt à tort, donc ?
On va pas dire plutôt à tort, mais on va pas dire qu'elle est 100% véridique. Parce qu'il le dit lui-même et il s'en défend souvent. On peut pas arriver à être numéro 6 mondial en ayant mangé n'importe quoi toute sa vie. Alors après, qu'il aurait pu être plus sérieux, faire les choses mieux, c'est sûr. De là à dire qu'il allait au McDo tous les jours, voilà, il y a juste un fossé.
Il y a quelque chose qui a peut-être freiné sa carrière, c'est qu'il a multiplié les entraîneurs.
Je ne sais pas si ça a freiné sa carrière, mais en tout cas, il en a fait 10. C'est beaucoup, les Nadal, les Djokovic, les Federer, ça tourne pour Nadal à 2. Federer a une fidélité à son staff depuis toujours. Djokovic a changé une fois. Voilà, on tourne plus à 2 ou 3 qu'à 10, quoi.
Il se décrit lui-même comme hypersensible. Il dit qu'il peut vivre une rupture avec son coach comme une rupture amoureuse. Ça, c'est un problème ?
Son problème, son principal atout et sa principale faiblesse. C'est-à-dire que c'est un affectif. Alors ça marche dans les deux sens. On parlait tout à l'heure de son affectif à Paris qui le fait briller. Et à l'inverse, son affectif peut le troubler, le perturber, pour quelle que soit la raison en fait. C'est-à-dire ça peut être quelque chose que tout le monde estimerait grave, qui pour lui est extrêmement grave, qu'on estimerait futile mais que lui estime important. C'est dur de quantifier. Et c'est ce qui fait la différence, et lui-même en convient, avec les meilleurs. C'est-à-dire que les meilleurs, sur le court, arrivent à ne pas avoir d'état d'âme, à être focalisés. Alors ils peuvent avoir des problèmes personnel aussi. Mais ces gens-là arrivent à avoir une espèce de carapace. Et Gaël Monfils, lui, ça serait plutôt une éponge.
Il est souvent victime de problèmes personnels ?
Ah, c'est un peu ce qui aura marqué sa carrière. C'est vrai, c'est ces problèmes personnels qu'il nous a sortis très 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 souvent, mais dont après on a du mal à mesurer l'importance.
Mais il dit ce que c'est, ces problèmes personnels ou...
C'est des problèmes personnels. Il peut dire aujourd'hui, j'ai pas bien joué tout, mais je sais d'où ça vient, j'avais des problèmes personnels. Mais ensuite, le problème personnel, ce qu'on disait, peut être de toute nature. Et lui seul, là encore, peut en quantifier l'importance.
Il n'a pas de stabilité en ce qui concerne les entraîneurs. Qu'en est-il au niveau amoureux ?
On ne connaît la face de Gaël Monfils niveau amoureux que quand il sort avec une joueuse de tennis. Parce qu'après, c'est vraiment un domaine dans lequel il est discret. Il ne fait pas la une des magazines avec ses conquêtes ou avec ses amis. Les deux fois où il l'a fait, où ça a été public, c'est quand il est sorti quelque temps avec la joueuse slovaque Dominika Sibulkova. Comme c'est une joueuse, ça s'est vu. Et en revanche, depuis quelques mois, il met un peu en scène, on va dire, sa romance avec Elina Svitolina, qui est numéro 9 mondial, qui joue actuellement Roland-Garros, elle aussi. Ils sont ensemble depuis le début de l'année, et là, ils n'hésitent pas à étaler leur bonheur.
Gaël Monfils s'est pris de passion pour plusieurs centres d'intérêt, à côté du tennis, lesquels ?
Alors, il a le basket, il a toujours adoré le basket, il s'est toujours levé la nuit pour regarder les matchs NBA. Gaël Monfils, c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion, donc il a une passion pour les montres, Alors, il adore les montres, il voudrait travailler dans l'horlogerie, c'est quelque chose qui le passionne, le démontage, remontage. Il adore la finance. L'année dernière, pendant qu'il était blessé, il a fait un stage dans une banque suisse. Il adore la musique, il aime bien regarder Les Feux de l'amour aussi, c'est une petite Madeleine de Proust de son enfance. Il aime beaucoup de choses. Il a même été, il est même arrivé à être champion du monde de padel. C'est un dérivé du tennis dont on parle beaucoup, on va dire, ces deux dernières années, parce que c'est un peu le sport à la mode. Mais lui, il s'est débrouillé d'être champion du monde de padel en 2006. Donc il y a 13 ans, parce qu'il était allé jouer un tournoi de tennis à Las Vegas, il a été éliminé, il y avait un tournoi de padel dans un casino, il a fait le tournoi, il est champion du monde de padel.
On revient sur le fil de sa carrière en ce qui concerne le tennis. En 2016, il a atteint les demi-finales d'un majeur, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, l'US Open, face à Novak Djokovic. Comment il a joué ?
Ça va être assez difficile de trouver un adjectif, on va dire qu'il a joué à l'envers. C'est-à-dire que pendant deux sets, les gens se sont demandé ce qu'il faisait. Il a essayé de jouer des balles molles, jouer au milieu du court, il a tenté. Bon, il a raté, il a tenté. Les gens ont commencé à siffler. Il s'est réveillé pendant un set, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, en plus, Djokovic était blessé à l'épaule, donc c'était pas non plus un Djokovic à 200%. Il a rejoué le troisième set, puis il a perdu en 4 sets. Ce qui avait fait dire à l'époque à John McEnroe, qui n'a jamais la langue dans sa poche et qui commente tout le circuit de tennis, que c'était la plus grosse déception de l'histoire du tennis.
Finalement, quel est le bilan de Gaël Monfils pour cette saison 2016 ?
À l'époque, il a un bon bilan cette saison, puisqu'il fait un titre, deux finales, il fait demi-finale à l'US Open, donc c'est sa meilleure saison. Et c'est la saison où il atteint le 6e rang mondial, et c'est la saison où il se qualifie pour le Masters. Donc le Masters qui réunit en fin d'année les 8 meilleurs joueurs de l'année. 2017, il est beaucoup blessé. Il fait un peu des dents de scie, quoi, pour essayer de revenir, repartir. Et 2018, c'est encore un peu la conséquence de l'année précédente.
Et cette année, il est comment ?
Cette année, il était très bien en début d'année. Il gagne le tournoi de Rotterdam, qui est un tournoi ATP 500. Donc, on va dire, c'est la troisième catégorie de tournoi après le Grand Chelem et le Masters 1000. Donc il a fait un très bon début de saison, ensuite ça a été un peu plus difficile quand la saison sur terre battue est arrivée, il a été un petit peu blessé, donc voilà, c'est un peu retombé.
Et pour cette édition de Roland-Garros, qu'est-ce qu'il a changé dans sa préparation ?
Il est beaucoup plus serein, mais c'est peut-être aussi dû à sa romance avec Elina Svitolina, donc il prend les choses différemment, bon, il a la maturité aussi, donc il est peut-être plus serein, plus sûr de lui. Et surtout, il n'hésite plus à exprimer ses ambitions, parce qu'avant, il avait un petit frein à dire vraiment les choses, de peur peut-être d'être ridicule ou de peur qu'on se moque de lui. Et maintenant, il n'hésite pas à dire, par exemple, qu'il a envie de gagner Roland-Garros. Quoi qu'il arrive, il aura des attentes sur lui, donc autant vaut-il qu'il les formule lui-même. Il travaille aussi avec ce qu'il appelle une dame. C'est, bon, on va dire, une préparatrice mentale qui l'a aidé justement à libérer ses émotions et à oser mettre des mots sur ce qu'il pense.
Combien d'années est-ce qu'il lui reste à jouer au plus haut niveau ?
Il va aller sur ses 33 ans, on va dire qu'il lui reste peut-être 2-3 bonnes années.
Et combien de titres est-ce qu'il a gagné ?
Il a gagné 8 titres, mais il aura disputé 29 finales. C'est un peu là que le bât blesse, c'est qu'il a un des pires ratios titres par rapport au nombre de finales disputées. Donc il a gagné 8 titres en ATP 500, ATP 250, qui sont les tournois de catégorie en dessous, les gros tournois qu'on appelle les Masters 1000. Et en Masters 1000, il a fait 3 finales, 2 finales perdues à Bercy et une finale perdue à Monte Carlo.
Certains pensent même qu'il aurait pu gagner l'un des 4 tournois du Grand Chelem. Mais finalement, est-ce que Gaël Monfils n'est pas tout simplement né au mauvais moment ?
Malheureusement, c'est pas le seul. Il y a beaucoup de joueurs et de plusieurs générations finalement qui seront nés au mauvais moment. Tous ceux qui auraient été contemporains de Federer, Nadal et Djokovic. Puisqu'il faut savoir que ces trois-là, depuis juin 2005, c'est-à-dire le premier titre de Nadal à Roland-Garros, ont remporté 48 Grand Chelem sur les 56 disputés. Donc ça laisse quelques miettes, on va dire. Et il n'y a que 4 joueurs qui ont réussi à profiter des miettes. C'est Andy Murray et Stan Wawrinka qui ont réussi à gagner 3 Grand Chelem. Eux, c'est vraiment la classe juste en dessous des 3 gros. Mmh. Et ensuite, il y a Del Potro et Cilic qui ont réussi à en gagner un. Et puis pour le reste, voilà, c'est fini.
Et justement, Gaël Monfils, si on regarde Roland-Garros, par exemple, il perd souvent face aux 3 gros.
S'il regarde ses statistiques à Roland-Garros, il a quand même perdu 4 fois contre Federer. Il a perdu une fois contre Djokovic, une fois contre Murray et une fois contre Wawrinka. Il faut reconnaître, quand on arrive sur ces joueurs-là en deuxième semaine de Roland-Garros, il faut à chaque fois faire un exploit pour les battre. Et ça, il n'y est malheureusement jamais arrivé.
Gaël Monfils, finalement, au moins, il reste lui-même et il prend du plaisir quand il joue.
Oui, il prend du plaisir. Puis ce qui est important, c'est que finalement, il en donne aussi. c'est toujours un spectacle dans la manière et dans la façon de le voir jouer. Et lui-même, sur un court, prend du plaisir, se donne, même si au bout, il n'atteindra peut-être pas son rêve et il ne l'atteindra peut-être pas cette année.
Et en tout cas, le public l'apprécie à Roland-Garros.
Ah bah oui, le public l'apprécie, le public le soutient. Les gens savent qu'il peut offrir un spectacle unique. Alors ça peut être dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Mais en tous les cas, il se passe toujours quelque chose avec Gaël Monfils, ça c'est sûr.
Merci à Éric Brunat. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézek. Réalisation et mixage Alexandre Ferreira. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Twitter ou nous écrire directement codesource@leparisien.fr.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.